C'est Radio France Internationale que vous écoutez alors qu'il est 18h30 en temps universel, 20h30 ici à Paris.
Afrique Soir sur RFI.
Au cœur de RFI Soir, la grande session d'information que RFI vous propose tous les soirs. L'actualité en Afrique, c'est maintenant avec vous, Zelfira Kouadio. Bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous. En République démocratique du Congo, plus de 5 mois après la prise de Goma par la FCM-23, la patronne de la MONUSCO a rencontré à Goma, capitale du Nord Kivu, le chef du groupe rebelle. Réunion pour, dit-on, évoquer la mise en œuvre du mandat de la mission onusienne, notamment la protection des civils. Et c'est justement dans ce contexte que nous reviendrons sur ce rapport de Médecins sans frontières, document qui alerte sur l'augmentation des violences basées sur le genre dans l'est du pays, violences qui ont atteint un niveau alarmant selon l'organisation. Et puis la Chine prête à supprimer les droits de douane pour 53 pays africains, une annonce forte même si Pékin n'a pas encore précisé la date de l'entrée en vigueur de cette mesure, ce qui pourrait compter pour les grandes économies industrielles du continent. On reviendra aussi sur l'attaque d'un convoi de l'armée malienne et de l'Africa Corps dans la région de Kidal, attaque des indépendantistes du Front de Libération de l'Azawad. Le FLA qui revendique une victoire, l'armée affirme que la situation est sous contrôle. Oui, en République démocratique du Congo, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a donc rencontré ce matin à Goma le représentant de la FCM-23, Corneille Nanga. Une première, plus de 5 mois après la prise de la ville par le groupe rebelle soutenu par Kigali. Le point sur cette rencontre avec Paul Lorgerie.
La MONUSCO reste engagée à appuyer toutes les initiatives susceptibles de favoriser une désescalade de la situation, a déclaré Bintou Keïta à l'issue d'une rencontre de près de 7 heures avec la direction de la FCM-23, un huis clos dont rien n'a filtré. Dans un poste lacunaire sur X, la MONUSCO informait que la réunion avait pour but d'échanger sur la mise en œuvre du mandat de la mission, notamment la protection des civils. Un entretien qui s'inscrit dans une visite de 2 jours qui, je cite, intervient à un moment critique, de tensions persistantes, selon les mots de la chef de la MONUSCO, qui exposera ses conclusions fin juin devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Une première prise de contact qui a permis aux deux parties d'apprendre à se connaître, confie un cadre de la FCM-23. Car l'on sait que les relations entre les deux parties sont tendues. En début de semaine encore, le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a indiqué dans un rapport que, sur le mois de mars, la FCM-23 est à l'origine de la majorité des violations des droits humains dans le pays. Des accusations souvent balayées d'un revers de la main par les rebelles, qui continuent de considérer la MONUSCO comme une partie au conflit.
Paul Lorgerie, on en vient à cette nouvelle alerte de Médecins sans frontières sur les violences sexuelles en RDC, une situation particulièrement inquiétante dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, en proie à un conflit depuis plus de 3 ans. Conflit qui, je vous le rappelle, oppose le groupe armé AFC M23 soutenu par le Rwanda voisin et l'armée congolaise et ses alliés. Depuis le début de l'année, Pauline Azidi, MSF constate en tout cas une augmentation des violences basées sur le genre à un niveau alarmant, écrit l'organisation dans un rapport publié cette semaine.
Depuis plus de 3 ans, MSF dit constater une situation qui se dégrade et de pointer les 40 000 cas pris en charge en 2024 par l'ONG uniquement dans la province du Nord Kivu, un chiffre sans précédent, précise l'organisation. Et la tendance pour 2025 est alarmante. Déjà 7400 victimes enregistrées à Goma, 2400 à Sake et 700 dans le Sud Kivu. Des agressions dans leur grande majorité commises par des porteurs d'armes. Ces violations sexuelles affectent en premier lieu les femmes, mais aussi de plus en plus d'enfants. Près de 13% des victimes sont des mineurs. Des données qui recoupent celles du Bureau conjoint des droits de l'homme des Nations Unies, qui en avril avait constaté une augmentation de plus de 152% des violences basées sur le genre entre janvier et février. Si les chiffres sont quasiment similaires pour le mois de mars, l'ONU prévient que ses capacités de monitoring dans les zones sous contrôle de la FCM-23 sont fortement impactées par l'insécurité et les contraintes d'accès. Des chiffres selon MSF sous-estimés par rapport à la réalité, car nombreux sont les obstacles pour accéder aux soins, prévient l'ONG. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et pour aller plus loin sur le sujet, Pauline Azidi s'est entretenue également avec Emmanuel Lampart, le représentant de MSF en République démocratique du Congo.
L'impact des violences sexuelles qui affectent, rappelons-le, les femmes, mais aussi des enfants, l'impact de ces violences sexuelles est connu et documenté de longue date. En plus de ces violences sur la santé physique et mentale, c'est les conséquences sociales qui sont dévastatrices. D'autant plus, à ce moment de l'année et cette année particulière, avec les coupes budgétaires, il est clair que l'accès et l'offre de soins est devenu de plus en plus difficile. Plusieurs structures de santé n'ont plus de médicaments et de kits nécessaires pour soigner ces survivants. Et face aux réductions de financement, je crois que ce témoignage à travers le rapport veut mobiliser davantage.
C'est pas la première fois qu'MSF alerte sur le niveau de violence sexuelle, d'autant plus depuis la reprise de ce conflit il y a plus de 3 ans. Pourquoi on n'arrive pas à mettre fin à ce phénomène ?
Les sous-investissements avec assez d'impact en termes de prévention de ces violences, bien évidemment et malheureusement liés aussi à un conflit persistant et un conflit qui davantage s'est élargi. Mais au-delà, bien évidemment, je crois que tout le monde aspire, et les survivants et survivantes avant tout, qu'un paix puisse se rétablir et qu'effectivement une réinsertion, réintégration sociale et dans la communauté puisse avoir lieu.
Parce que les conséquences de ces violences sexuelles, elles se mesurent sur des années. C'est du suivi psychologique, du suivi de la communauté pour faire en sorte que ces violences sexuelles n'aient pas d'impact sur plusieurs années pour les victimes.
Tout à fait. C'est pas uniquement le moment de l'incident, le moment de la violence, mais c'est effectivement un suivi des années. Et les proportions de réelle réinsertion, réintégration sociale, familiale, communautaire, en disent très long sur l'impact, les conséquences sociales, notamment très dévastatrices, sur l'individu, sur sa famille, sur la communauté, et sur l'ensemble des communautés présentes, notamment dans le nord et sud Kivu.
Voilà, Emmanuel Lampart, le représentant de Médecins sans frontières en République démocratique du Congo, répondait aux questions de Paulina Zidi. Et puis toujours en République démocratique du Congo, au moins 40 morts et un nombre encore indéterminé de disparus dans un naufrage survenu mercredi sur un lac dans le nord-ouest du pays. Bilan provisoire communiqué ce vendredi par le ministre de l'Intérieur de la province de l'Équateur. Dans l'actualité également, arrestation ce vendredi de la chef du poste de police de Nairobi, où est décédé le week-end dernier un homme qui avait critiqué un officier sur les réseaux sociaux. La police avait initialement affirmé que l'enseignant s'était suicidé durant sa détention en se tapant la tête contre les murs de sa cellule, avant que l'autopsie ne révèle de nombreuses lésions au crâne et au cou incompatibles avec des blessures auto-infligées. La mort en cellule d'Albert Owang, 31 ans le week-end dernier, a provoqué une forte indignation et des manifestations au Kenya. Un geste historique de la Chine pour l'Afrique. Pékin se dit prêt à discuter d'une suppression des droits de douane pour 53 pays africains. À ce jour, seuls 33 pays bénéficiaient de ces exemptions totales. Même si le gouvernement chinois n'a pas précisé quand la mesure entrera en vigueur, c'est une annonce forte, Alexis Bédu.
L'objectif affiché par Pékin, c'est d'importer plus de produits en provenance d'Afrique. C'est en réalité un coup géostratégique important. Au moment où les États-Unis annoncent qu'ils vont fortement augmenter les droits de douane de certains pays africains, la Chine envisage de les supprimer. Les échanges avec l'Afrique représentent seulement 3% du commerce chinois, essentiellement des matières premières, minerais et pétrole qui ont une faible valeur ajoutée. Depuis 2005, 27 pays d'Afrique, les moins avancés, bénéficient déjà d'exemptions sur la quasi-totalité de leur exportation. On peut remarquer que l'impact reste marginal. D'autant que les modalités des futures suppressions de droits de douane n'ont pas été précisées. Si les exemptions ne concernent que les matières brutes, ça ne devrait pas inciter les pays africains à accélérer sur la transformation locale. Autre question, est-ce que vraiment la Chine autorisera des exemptions de droits de douane pour les voitures sud-africaines par exemple ? Et si c'est le cas, est-ce que la voiture sud-africaine sera assez compétitive pour qu'il y ait une demande en Chine ? Tout cela reste très hypothétique, nous précisent différents experts des relations Chine-Afrique.
Alexis Bédu. Au Mali, un convoi de l'armée de l'Africa Corps, les supplétifs russes de l'armée qui ont succédé au groupe Wagner, a été visé par une attaque des rebelles indépendantistes du FLA, le Front de Libération de l'Azawad, tôt ce vendredi matin, circulant entre Anéfis et Aguelok, région de Kidal, dans le nord. Le convoi est tombé dans une embuscade. Le FLA revendique une grande victoire, mais David Bachet, l'armée l'armée malienne, après avoir démenti toute attaque, assure avoir pris le dessus.
Le convoi logistique de l'armée malienne et de l'Afrika Korps russe était composé d'une trentaine de véhicules. Il a d'abord été ciblé hier par des mines artisanales à Tadjereret. Ce matin, c'est à Anoumalan, à une quarantaine de kilomètres d'Aguelok, que le FLA a tendu une embuscade contre ce même convoi, avec essentiellement des tirs à l'arme lourde pendant plus de deux heures. L'armée malienne a finalement répliqué avec des bombardements aériens, drones, avions de chasse et hélicoptères ont été mobilisés. Le FLA parle de grandes victoires, affirme que de nombreux ennemis ont été tués, sans détail sur leur identité, soldats maliens et combattants russes de l'Afrika Korps. Le FLA affirme également avoir récupéré une quinzaine de véhicules, dont un blindé et 12 camions. Les rebelles ont diffusé des images de nombreux véhicules détruits ou emportés. Dans un premier communiqué cet après-midi, l'armée malienne a d'abord démenti toute prétendue attaque et dénoncé des informations fallacieuses destinées à instiller la peur et perturber l'opinion publique. Deux heures plus tard, un nouveau communiqué de l'état-major revendiquait au contraire une double défaite infligée à un groupe armé terroriste avec un assaut hier et une riposte fulgurante aujourd'hui. Les deux camps assurent avoir fait des dizaines de victimes. Aucun bilan fiable n'a pu être recoupé.
David Bachet, et puis des milliers de Maliens ont recrépi l'iconique mosquée de Djenné, une ville historique du centre du pays, ville classée au patrimoine mondial, et cela à l'occasion de la cérémonie annuelle permettant de protéger ce joyau architectural en terre. La cérémonie du crépissage annuel avec du banco enduit composé de terre et d'eau permet de protéger la mosquée des intempéries avant la saison des pluies, parfois violentes au Sahel. La caravane de solidarité avec Gaza, partie de Tunis le 9 juin, à destination de la frontière du territoire palestinien, du côté de l'enclave assiégée de Gaza, a été stoppée avant Sirte, ville sous contrôle du maréchal Haftar. Les 1700 militants qui traversaient la Libye et comptaient passer en Égypte pour atteindre la frontière de Gaza ont décidé de dresser leur tente sur place, à 30 km de Sirte, en attendant une décision et des explications des autorités de l'Est libyen. Leur objectif symbolique est en tout cas de briser, je cite, le siège et le blocage israélien qui affame les Palestiniens en les privant d'aide humanitaire. Les précisions d'Ouda Ibrahim.
Les militants avaient l'habitude, depuis leur départ de Tunis, de poster des photos et des vidéos indiquant la progression de leur caravane qui marche en soutien à Gaza. Mais depuis jeudi, selon plusieurs participants, l'Internet est ralenti et il est très difficile de poster des images de leurs actions sur les réseaux sociaux. Selon l'un des organisateurs, il faut faire 50 km pour trouver du réseau et donner des nouvelles. Wael Nawar, un coordinateur de la caravane, a expliqué sur Facebook qu'ils ne savaient pas s'ils allaient pouvoir progresser. Dans les dernières vidéos que les membres du convoi ont postées, on voit de nombreux véhicules et bus à l'arrêt sous une chaleur torride qui frise le 40 degrés. Plus de 2000 personnes, des Tunisiens, des Algériens ainsi que des Mauritaniens et des Libyens, confrontés à des conditions difficiles et la population locale leur apporte des vivres et à boire. Les autorités égyptiennes ont fait savoir que toute forme d'action pro-palestinienne organisée par des délégations étrangères exigeait une autorisation préalable.
Un récit signé Ouda Ibrahim. Au Sénégal, la Cour suprême a retoqué la cessation de parution d'un média en ligne en suspendant un arrêté du ministère de la Communication pour le Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse du Sénégal. C'est une victoire après que le ministre de la Communication, Ali Youn Sall, ait pris fin mai un arrêté demandant la cessation de parution et de diffusion de médias jugés non conformes. Pas moins de 381 médias étaient concernés par cette mesure. Pour le président du Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse, Mamadou Ibrakan, la décision de la Cour suprême va donc bien au-delà du seul média en ligne public SN.
Ici, importe peu le média qui a introduit la requête, parce que la décision ça ne porte pas sur la cessation de diffusion ou de parution du média public SN. C'est l'arrêté lui-même qui est suspendu. Tous les 381 médias avaient le même problème et la Cour suprême donc a annulé cet arrêté du ministre comme étant non conforme à la Constitution du Sénégal et à la législation de manière générale. C'est une victoire de la liberté de la presse, c'est une victoire de la liberté d'expression, c'est une victoire pour le renforcement de l'état de droit au Sénégal face à l'arbitraire d'autorité politique, parce que l'autorité politique qui voulait interdire des médias a été rabroué par la Cour suprême, en ce sens qu'un ministre de la communication n'a pas le droit d'interdire l'apparition ou la cessation de diffusion de quelconque média.
Un propos recueilli par Léa-Lisa Westerhoff. Et puis en Côte d'Ivoire, à moins de 5 mois de la présidentielle, l'Union africaine propose son accompagnement pour que le scrutin se déroule dans de bonnes conditions. Proposition faite à l'issue de la visite à Abidjan d'une délégation de l'organisation conduite par le Tchadien Mahamat Saleh Anadif. Il rappelle que la délégation a parlé à toute la classe politique et invite, je cite, « chacun à jouer sa partition ». Je rappelle que plusieurs figures de l'opposition, comme l'ex-président Laurent Gbagbo ou encore le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, sont exclus de la course à la présidentielle, ce qui alimente des tensions dans la classe politique. Fin du sommet des Nations Unies sur l'océan organisé à Nice dans le sud de la France. Pendant une semaine, 153 pays et 12 000 délégués se sont réunis pour tenter de mieux protéger les océans. Au cours de ces discussions, Jeanne Richard, les pays africains ont fait avancer plusieurs dossiers.
45 États africains étaient représentés à Nice cette semaine et une quinzaine de chefs d'État ont fait le déplacement, explique Julien Rochette, qui dirige le programme Océan de l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales.
Le positionnement des pays africains a été très allant et a montré un intérêt sur l'ensemble des dossiers océans en cours, le plastique, la décarbonation du transport maritime, l'adaptation évidemment, la lutte contre le réchauffement climatique. On a vu aussi beaucoup d'initiatives des pays africains sur les questions de haute mer.
Et ce traité sur la haute mer vise à protéger l'océan au-delà des zones exclusives des États dans les eaux internationales. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie l'ont ratifié cette semaine et une dynamique s'enclenche pour protéger le golfe de Guinée.
On commence à discuter de premières possibles aires marines protégées au large des eaux de l'Afrique de l'Ouest sur proposition des pays africains. Donc le Nigeria est moteur en fait d'une initiative qui pourrait être collective par l'ensemble des États de la CEDEAO.
En attendant, le Ghana a déjà annoncé interdire le chalutage de fond et les autres pratiques de pêche industrielle sur l'ensemble de ses eaux territoriales. Une victoire pour les petits pêcheurs artisanaux et pour l'océan. Jeanne Richard, Nice, RFI.
À noter également l'annonce d'une nouvelle aire marine protégée en Tanzanie, mais aussi le manque de financement pour la conservation de l'océan, souligné par Madagascar, le Libéria et la Sierra Leone. Orange devient le partenaire stratégique de l'Agence française de développement pour le numérique. Le géant français des télécoms a signé jeudi une convention cadre sur 3 ans avec le bailleur public français à l'occasion du salon de l'innovation Vivatech aux portes de Paris. Il s'agit de favoriser l'accès de tous au numérique, de l'Afrique au Moyen-Orient bien sûr, mais aussi, clairfage, de créer des emplois dans ce secteur tout en limitant l'impact sur l'environnement.
La révolution de l'intelligence artificielle va nécessiter d'étendre des réseaux très haut débit en Afrique, mais aussi de déployer des câbles vers le continent. Les prêts et subventions de l'AFD permettront, selon la directrice générale d'Orange, Christelle Edman, d'améliorer plus rapidement l'accès des populations au numérique.
Pour nous, l'inclusion numérique, c'est d'abord amener le numérique. Et donc notre métier de base, qui est de déployer des réseaux, ça reste essentiel. Évidemment, l'attente, les besoins des populations, c'est toujours meilleure qualité et plus de capacité.
Orange compte aussi sur ce partenariat avec l'AFD pour réduire son impact sur l'environnement.
Évidemment, on a besoin de verdir l'énergie qu'on consomme. On a des enjeux forts autour de l'empreinte environnementale.
Autre objectif, créer des emplois qualifiés dans le numérique dans les 17 pays d'Afrique et du Moyen-Orient où le groupe est implanté.
On a nos Orange Digital Center dans chacune de nos géographies où là, on s'appuie sur des associations locales. On travaille avec les universités. Créer les talents, ça peut être aussi accompagner les entrepreneurs eux-mêmes.
Démultiplier l'impact avec l'aide de l'AFD pour réguler le secteur. Après la Côte d'Ivoire, le Sénégal et Madagascar, Orange a des projets en Centrafrique et en République démocratique du Congo.
Claire Fage. Et puis en sport, le choc au sommet du championnat guinéen de foot qui opposait ce vendredi le Afia FC au Oroya AC. Les deux plus grands clubs de Conakry, la capitale, se disputaient quasiment le titre de champion et c'est le Oroya qui l'emporte 1-0 et relègue son adversaire à 11 points alors qu'il reste désormais 4 journées à disputer. Il est 18h49 en temps universel. Les autres grands titres de l'actualité, Philippe Le Caplain.
En fait, l'actualité est dominée ce soir par ce qui se passe au Moyen-Orient. L'Iran a lancé de très nombreux missiles balistiques vers Israël. Des volutes de fumée s'élèvent au-dessus de Tel Aviv, par exemple. Après des bombardements, des explosions, les sirènes retentissent dans tout le pays. Dans le même temps, le guide suprême iranien déclare que l'attaque israélienne mènera Israël à sa ruine. Il s'agit de la riposte aux attaques aériennes menées tôt ce matin par l'aviation israélienne. À signaler que ce soir, l'Iran affirme avoir abattu 2 avions de chasse. 200 frappes qui ont tué le chef des guides de la révolution et les responsables du programme nucléaire iranien. Vladimir Poutine condamne ces frappes, propose à Netanyahou de faire le médiateur avec l'Iran. En France, le président de la République vient de prendre la parole. Il déclare que l'Iran a poursuivi son programme ces derniers mois, continué d'enrichir son nucléaire et proche d'un stade critique qui permet de produire des engins nucléaires. Il dit aussi que l'Iran porte une lourde responsabilité dans la déstabilisation de toute la région et que la France participera à la défense d'Israël en cas d'attaque de l'Iran si elle est en situation de le faire. Emmanuel Macron qui affirme aussi qu'il faut se préparer à des conséquences économiques. Pour sa part, l'or tire son épingle du jeu et se rapproche de son record du mois d'avril à plus de 3 500 $ l'once.
RFI, 18h50 en temps universel. Merci beaucoup Philippe Le Caplin. Et direction la Sierra Leone, l'un des pays au monde les plus exposés à l'érosion côtière. Près de 2 millions de personnes établies le long des côtes sous la menace de perdre leur habitation et leurs moyens de subsistance. La montée des eaux est particulièrement inquiétante pour ceux qui vivent sur les îles au large des côtes sierra-léonaises. C'est le cas sur l'île Plantin, au sud de Freetown, la capitale, où des dizaines de bâtiments ont déjà disparu. Reportage, Lisa Fabian.
La terre sablonneuse semble avoir fondu à force d'être léchée par les vagues. Le rivage s'enfonce maintenant à pic dans l'océan. L'érosion de la côte a déjà emporté une partie de l'école de Plantain Island. L'extrémité du bâtiment est détruite et frôle le vide. Le professeur Ibrahim Tarawali se remémore son arrivée sur place il y a presque 20 ans.
Beaucoup d'entre nous sont venus ici depuis le nord pendant la guerre civile. Et maintenant, cette île est en train de disparaître à cause de l'érosion et des intempéries. Oui, j'ai peur. Regardez cette école. Une salle de classe et le bureau du principal sont tombés dans la mer. Graduellement, l'île rétrécit de plus en plus. Et quand elle disparaîtra, il faudra bien partir.
La population était initialement de plus de 5000 personnes. Il n'en resterait plus que quelques centaines. En contrebas, les vagues turquoises viennent se briser à quelques mètres seulement d'une petite mosquée bleue. Autrefois, ce bâtiment se trouvait au centre du village. L'imam Djibril Aladji Kamara continue d'y diriger la prière.
Une partie des murs s'est déjà effondrée. Alors les gens viennent encore prier, mais ils ont peur. Alors quand la marée est haute, les fidèles prient vite, vite, le plus vite possible avant de repartir.
Une voisine s'approche. Kadiatou Diallo porte un long voile noir qui recouvre son corps sec. La vieille femme originaire de Côte d'Ivoire pointe la surface lisse de la mer.
Avant, on pouvait marcher jusqu'à la petite île, tout là-bas. Il y avait une route, des maisons et une autre mosquée. Mais tout a disparu. Et juste là, c'était ma maison. Nous vivions de manière très confortable. En fait, on ne pouvait même pas entendre les vagues quand on dormait. Il y a des années, d'ici, on ne pouvait même pas deviner qu'on vivait sur une île. On ne voyait même pas la mer.
L'Agence pour la protection de l'environnement en Sierra Leone et l'Organisation internationale pour les migrations ont mené récemment une étude pour voir comment améliorer la vie des habitants sur place. Henry David Bayo est consultant pour l'agence gouvernementale.
Pour ceux qui veulent rester sur l'île, il faut prendre des mesures de protection. Par exemple, on réfléchit à la manière dont on pourrait restaurer les mangroves qui entourent l'île. Parce que cette végétation permet de ralentir l'érosion et de protéger la côte.
Une bonne partie des habitants de l'île Plantin n'ont tout simplement nulle part d'autre où aller, ni même les moyens de quitter leur habitat en plein déclin. Lisa Fabian, de retour de Freetown, RFI.
Et place à la musique dans Afrique Soir. Depuis plus de 20 ans, Karl Oudi fait danser l'Afrique de l'Ouest et même au-delà. Le chanteur, auteur et compositeur sénégalais est de retour. Retour avec un album intitulé Move and Groove. Gwendal Lavina l'a rencontré à Dakar.
Dès les premières notes de la première chanson, Do That, Karl Oudi nous transporte dans son univers afro-urbain avec une injonction adressée à son public. Fais-le.
Tell me now. What you really think about of this now? Don't you think we have to sit and talk? Dolly jilla pillai, jilla lila so. Gumu loma pillai, walla walla bo. Do that, do that, do that.
La chanson est un appel à l'action chez les jeunes dans une période où le doute et l'état du monde peuvent les freiner, estime l'artiste.
arrêter de réfléchir, arrêter d'hésiter. Quand on a une idée qu'on a envie de partager avec le monde, il ne faut pas hésiter. Just do that. On a trop attendu et quand on attend, on n'a pas tout ce qu'on veut. En tant que leader dans mon domaine, je lance ce message à cette jeunesse d'arrêter d'hésiter, d'aller de l'avant.
Pour faire résonner son message, Carloudi chante en trois langues sur cet album, l'anglais, le wolof et le français.
Partir à jamais ou rester à genoux, est-ce le meilleur ou le pire?
C'est pour mieux me faire comprendre, gagner plus d'espace, faire voyager le mieux, le max de monde. Wolof parce que je suis sénégalais, français parce que c'est notre langue aussi, et l'anglais parce que c'est, on va dire, l'outil pour mieux exporter. Il n'y a pas de différence pour moi. Nous sommes tous habitants du monde entier, et là, c'est le moment de parler à tout le monde, c'est pour mieux toucher le max de monde possible.
Un dernier élément apporte un véritable vent de fraîcheur sur l'album, et c'est presque une mini-révolution pour Carloudi après 20 ans de carrière, les collaborations.
C'est ce qu'on m'a reproché moi depuis le début. Carlou ne fait pas beaucoup de featuring. Les featuring, ça vient naturellement. Depuis l'écriture des chansons, la composition de la musique qu'on entend, des voix qu'on a l'habitude d'entendre. Ça n'a rien de commercial, il faut le sentir. Les voix s'invitent elles-mêmes par rapport à la composition. Ils ont spirituellement leur mot à dire. En tout cas, personnellement, un de mes albums n'a jamais atteint ce niveau-là.
Dans Move & Groove, deux chansons voient des artistes prêter leur voix. Only You avec Aubry Daman et Narangshi Diop avec Pape Diouf, Viviane Chidi et Sidi Diop. Résultat, un album abouti, engagé mais tout en finesse. Probablement le secret de la longévité de Carloudi. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
Le baby cap on a baby, yes, 24, New York City, Ben Dakar, fellas, Narangshi. Love baby cap and a ho baby gets 24 New York City Bandakar fellas around you. Around you lampita courant de coupé fiquel de filtre garde bande you
oude 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 oude
ah oude 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 nim la gisela le avale oude
oude oude oude
oude
oude oude
ah
Carloudi bakna jarul di wax la bali fan taw la fasaraw rawanga ja kanam ku le sit ci ginaaw mo ja kala ne ya nga fakkano.
I'm the first main man in this big game. Drop the key back and chill, ain't nobody rock this shit better than I. Open your eyes, we gon' reach the guy.
Bien, c'est au Sénégal que s'achève cette première édition d'Afrique Soir. Merci de l'avoir suivi. À suivre maintenant les principaux rendez-vous de la soirée sur RFI. C'est avec vous, Philippe Le Caplain.
Dans une dizaine de minutes, Ici l'Europe qui recevra Marcos Perestrello, le président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, qui commentera le conflit Israël-Iran, la guerre en Ukraine, le prochain sommet de l'OTAN et les contributions des pays membres. Pourquoi RFI dit ça? Dans un peu plus d'une demi-heure, à l'occasion de la conférence de l'ONU à Nice, comment parler du vivant si fragile? Comment décrypter les enjeux scientifiques, économiques, politiques de cette conférence? Également, comment trouver le bon rythme dans un journal? Ce sera avec Nicolas Sûr de la rédaction africaine de RFI. Couleur tropicale, après le journal de 2h, avec comme invité Ralicia, la voix montante de la scène togolaise, qui a sorti un double album afropop ces jours-ci. Il s'appelle Sacrifice et Big Think. Tout cela donc à suivre au cours des prochaines heures sur RFI, Radio France Internationale.
Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Hugues Fabrice Zango, invité exceptionnel dans nos studios ce samedi, la légende du Burkina Faso, médaillé de bronze olympique, champion du monde du triple saut, Hugues Fabrice Zango qui reviendra sur son parcours, sur les pistes, mais pas seulement, une émission spéciale à suivre également en direct en vidéo sur YouTube.
Mondial Sport, demain à partir de 16h10 TU sur RFI.
Afrique, mémoire d'un continent. Avec Elgas.
Haïti, symbole d'une longue injustice, après avoir mis en déroute les troupes napoléoniennes, Haïti devra payer à la France pour sa liberté. Une dette colossale, étranglement sur les fragiles finances d'un pays. Je vous raconte une révolution, une dette et la perspective d'une restitution.
Afrique, mémoire d'un continent, tous les dimanches à 8h10 TU sur RFI. Préparez-vous à découvrir le futur du stand-up africain. Avec le podcast La Relève du Rire, plongez au cœur de Mon Premier Montreux, le grand casting de l'humour lancé dans 10 pays d'Afrique francophone. Chaque semaine, découvrez un nouvel épisode avec les meilleurs sketchs et l'énergie débordante des humoristes de demain. Alors, d'où viendra la prochaine pépite du stand-up africain ? La Relève du Rire, c'est votre dose hebdomadaire de bonne humeur. Disponible sur RFI.fr, l'application RFI Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute.